When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Les antipodes.
Bonsoir Twitch et bonsoir le podcast. Vous écoutez le Rendez-vous de l'étrange, épisode 6. Ce soir, je suis avec Vanille.
Voilà.
Est-ce que tu vas bien?
Ça va et toi?
Bah ouais, ça va nickel. Il fait un petit peu chaud là dans mon bureau. Il fait genre 33 degrés. D'ailleurs, il faut que j'arrête le ventilo parce que vous devez l'entendre. Tac. Alors, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être un peu aux auditeurs?
Oui, bah déjà, bonjour tout le monde. Je m'appelle Vanny, comme il a dit. J'ai un podcast qui s'appelle, je sais pas si vous connaissez, C'est Creepy. Et je parle d'affaires criminelles, de mystères, de paranormal, mais avec une petite dose de creepy plutôt intense, genre des trucs chelous, dégueulasses, des gens bizarres plus en fait. Voilà.
Ouais, j'avoue, ouais, t'aimes bien genre les tueurs en série, les trucs comme ça, faut qu'il y ait un peu de sang, un peu, ouais.
Ouais, faut qu'il y ait des éléments. En fait, faut qu'il y ait des éléments qui soient vraiment, qui sortent un peu de l'ordinaire, des histoires qu'on a l'habitude d'entendre, des histoires criminelles, voilà.
Moi, j'ai tout écouté, donc je peux que recommander, hein, de toute façon. Hein. et du coup, tu vas nous parler de quoi ce soir?
Alors, ce soir, je vais faire deux affaires. La première, c'est une histoire qui se passe aux États-Unis. C'est une histoire criminelle, mais en même temps, une petite histoire dans le thème « Le rendez-vous de l'étrange », où c'est non résolu, entre guillemets. Et la deuxième, c'est une histoire de fantôme.
Stylé. Moi, de mon côté, je vais faire un tour d'horizon du mythe de la Dame Blanche à travers les âges et les régions du monde. Et j'ai aussi préparé un deuxième sujet, plus pour l'after show justement sur Twitch. Je vous parlerai d'un monument mystérieux en Géorgie qui contient des directives à suivre pour survivre à la fin du monde. Donc ça va nous faire un chouette programme.
Ça a l'air trop bien.
Comme t'as deux sujets, je pense que tu peux commencer.
Yes, on va commencer. Ça se passe le 2 janvier 1935 vers 13h20. Il y a un homme qui dit s'appeler Roland T. Owen, qui s'enregistre au Président Hotel à Kansas City, aux États-Unis, et on lui attribue la chambre 1046. Donc l'histoire s'intitule la chambre 1046. Hein. Elle est connue sous le nom de la chambre 1046 dans le monde entier, j'ai envie de dire. Des témoins disent qu'il devait avoir entre 20 et 35 ans, il avait les cheveux bruns et courts, une cicatrice au niveau du cuir chevelu et des oreilles en chou-fleur, comme les boxeurs. Le groom nommé Randolph le guide jusqu'à sa chambre et sur le chemin, Roland il fait que de se plaindre d'un hôtel qu'il vient de quitter juste à côté où il trouvait les tarifs vraiment exorbitants. Randolph remarque que Roland a seulement emmené un peigne, une brosse à cheveux et un tube de dentifrice avec lui. Alors je sais pas trop comment il a réussi à regarder dans son sac, mais apparemment il voit que Roland voyage très très léger. Roland va ensuite déposer ses affaires et redescendre dans le hall où la réception le verra sortir pour revenir, faire des allers-retours plusieurs fois pendant tout son séjour à l'hôtel. Ce sera ensuite au tour d'une femme de chambre, Marie, de rencontrer Roland. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle venait pour nettoyer, il était là et qu'il la faisait rentrer quand même et il la laissait jamais nettoyer toute seule en fait dans la pièce. Il était toujours présent dans la chambre. Elle se souvient qu'il lui demandait de ne pas verrouiller la porte quand elle partait parce qu'un ami à lui devait venir lui rendre visite bientôt. Voilà, il lui disait ça à chaque fois. Donc elle le faisait. Il lui demandait aussi de laisser les volets complètement fermés, de garder la pièce dans le noir, à l'exception d'une petite lampe de chevet, à la lumière très faible qu'il gardait allumée. Tout le personnel qui est entré dans la chambre de Roland dira qu'ils ont remarqué la même chose, qui faisait tout le temps sombre, à part cette petite lampe, quoi. Et Marie, donc la femme de chambre, elle dira également dans son rapport de police qu'elle trouvait ça bizarre et que quelque chose semblait inquiéter ce Roland, ou alors qu'il avait peur de quelque chose. C'était son ressenti sur son comportement atypique et ses exigences assez particulières au niveau de la chambre. Et vers 16 heures, elle est revenue le voir pour lui apporter des serviettes propres et elle l'a trouvé encore allongé sur le lit, complètement habillé, toujours dans le noir, avec la porte ouverte. Elle était partie, elle l'a laissée ouverte, elle est revenue, elle était toujours ouverte. Elle s'est dit, son pote, il est pas venu. Il se parle pas beaucoup, en fait. Elle rentre, elle fait son travail, mais elle remarque que il y a un mot, je crois que c'est sur la table de chevet, où il est écrit « Donne ». Je serai de retour dans 15 minutes, attends-moi. » Donc apparemment, il a dû quitter la chambre pendant quelques instants. Et il aurait laissé un mot à son pote, dans le cas où il viendrait et il trouverait la chambre vide. Enfin, moi, c'est ce que j'en déduis, parce que...
Ouais, genre il voulait aller aux toilettes ou un truc comme ça, quoi.
Après, j'espère qu'il a des toilettes dans sa chambre, quand même.
On était dans les années 1930, pas dit, hein.
C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais je pense que... Non, si, quand même. Si, excuse-moi, il y avait une salle de bain dans la chambre.
Ah, ok.
Je suis bête, je le sais. Donc Marie elle se dit ok, d'accord. Elle quitte la chambre et elle continue son service. Et le lendemain matin, vers 10h30, elle est de retour dans la chambre 1046 pour la nettoyer et elle remarque que la porte a été verrouillée de l'extérieur. Elle se dit c'est pas grave, hein, c'est la procédure normale quand le client il est parti, qu'il a quitté sa chambre. Et elle se dit, Roland, il a dû soit la fermer à clé quand il est parti, donc il est plus là. Elle se dit qu'il est plus là. Elle utilise sa clé à elle, la clé de l'hôtel, pour rentrer. Mais Roland est bien là, toujours dans la même position, sur le lit, assis, les lumières éteintes.
En gros, ça veut dire que quelqu'un l'a enfermé dehors, quoi. Enfin, à l'intérieur plutôt.
Ouais, peut-être que son pote, il est venu, et puis quand il est reparti, il a fermé de l'extérieur. Mais ça n'avait pas l'air de le gêner, il est toujours en train de faire la même chose, assis sur son lit, les lumières éteintes. Donc, elle trouve ça bizarre, bien sûr, mais elle fait son travail, encore une fois, elle dit rien, ça la regarde pas. Elle est en train de nettoyer, et puis le téléphone, il sonne.
Ok.
Et Roland décroche, il dit, je cite, « Non, donne, je n'ai pas envie de manger. Je n'ai pas faim. Je viens de petit déjeuner. » Et il répète une deuxième fois, « Non. Je n'ai pas faim. » Donc, s'il a été enfermé de l'extérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que son pote, il a dû sûrement passer, parce que c'est pas Roland qui a été fermé de l'extérieur, il y a quelqu'un qui a dû rentrer et repartir. Et s'il lui parle au téléphone, c'est par A plus B, ils se sont vus, obligatoirement.
Ils se connaissent déjà.
D'accord. Ouais, ils se connaissent, et puis il y a eu de l'action. Enfin, de l'action. Ils se sont vus à un moment, c'est obligé. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il reste encore dans le noir, assis sur son lit comme un psychopathe? Parce que là, ça commence à faire 2 jours de suite, je crois, que la femme de chambre, elle le trouve dans cette position. Bref, c'est bizarre, et la femme de chambre, elle en pense pas moins. Roland va soudainement s'adresser vraiment à Marie pour la première fois. Il va la questionner, il va lui demander... Combien de chambres est-ce que vous vous occupez dans l'hôtel? Combien vous en nettoyez? C'est quel genre de personnes qui vivent dans cet hôtel? Parce que oui, à l'époque, il y avait des gens qui vivaient dans les hôtels toute l'année. Ils louaient la chambre au mois. Donc voilà, il demande c'est quel genre de personnes qui habitent dans cet hôtel. Il lui demande aussi si il y en a d'autres qui se plaignent du prix de l'hôtel d'à côté.
Ok.
Vraiment, il s'en est parmi, et elle va juste répondre rapidement, sans perdre trop de temps, je dois nettoyer 20 chambres, voilà. Et puis, elle finit de nettoyer, et elle part. Marie, encore une fois, comme toujours, elle revient vers 16 heures pour lui ramener des serviettes propres. Elle s'approche doucement devant la porte, parce qu'elle entend deux voix d'hommes qui discutent. Il y en a un qui a une plus grosse voix que l'autre. Donc elle se dit, ça doit être son ami Don. Elle toque, et la grosse voix répond, « C'est qui ?» Elle dit qu'elle vient déposer des serviettes propres et le mec dit « on n'en a pas besoin ». Donc Marie, bah, elle s'éclipse, même si elle sait que c'est pas vrai parce qu'elle est venue les chercher le matin même, les serviettes sales, ils en ont pas et puis ils vont sûrement en avoir besoin d'ici le lendemain matin. Enfin, mmh. Elle se dit « voilà, il n'en a pas besoin, ok, elle s'en va ». On rapporte plus tard que la femme qui va occuper la chambre d'à côté au 1048, elle va dire entendre cette soirée-là plusieurs voix très fortes qui l'ont dérangée, qui se disputaient. Elle a entendu des insultes qui provenaient certainement de la chambre de Roland, la chambre 1046. Mais elle n'est pas sûre parce que au même étage, dans la chambre 1055, il y avait une fête et il y avait des gens qui faisaient du bruit quoi toute la nuit. Donc, peut-être qu'il y avait une dispute à la fête. Elle n'est pas trop sûre, mais elle sait qu'elle a entendu des insultes et que c'était probablement la 1046. À 7h le lendemain matin, Della, la réceptionniste, prend son poste et remarque une lumière rouge qui clignote sur la chambre 1046. En fait, c'est le téléphone de Roland qui est décroché, qui n'a pas été bien raccroché, quoi. Et elle fait envoyer le groom, notre cher Randolph du début, à la chambre pour lui dire « Bah écoute, Roland, raccroche ton fucking téléphone, quoi !» Donc du coup, bah, Randolph, il y va, il arrive devant la porte, et il aperçoit qu'il y a un panneau « Ne pas déranger ». Enfin, un panneau.
Ouais, les trucs à la poignée, là.
Ouais, « Ne pas déranger ». Bon, c'est bien gentil, hein, mais il doit faire son taf, alors il cogne quand même, et il entend une voix lui dire tout doucement « Rentrez, allumez les lumières !» Donc Randolph, il essaye de rentrer, mais c'est verrouillé. Et il n'y a personne qui se lève pour lui ouvrir. Donc, il se dit, Roland, il doit être bourré. Donc, il lui dit, remettez, s'il vous plaît, le téléphone sur son socle. Et puis, il part. Il retourne à la réception.
Ok, il rentre pas, donc.
Non, il rentre pas, il arrive pas à rentrer. Et puis, voilà, il y a écrit ne pas déranger. Donc, il se dit, au moins, je lui ai dit de remettre le téléphone sur son socle. Et puis, c'est tout. 1h30 plus tard, vers 8h30 du matin, Roland n'a toujours pas remis le téléphone sur son socle. Donc à la réception, il commence à perdre patience, ça les gêne déjà, hein, parce qu'il y a la lumière qui clignote et c'est chiant. Et là, c'est un autre groom, Harold, qui est envoyé et il se dit « vas-y, je vais aller voir ce qui se passe vraiment dans cette chambre parce que ça commence à être bizarre ». Il utilise son passe-partout pour rentrer dans la chambre. Là, il voit Roland dans son lit, tout nu, probablement bourré, et tout autour de son corps, il remarque que c'est très foncé, genre les draps sont bien noirs, dans le noir, accessoirement, mais ils sont noirs quand même. Il remarque qu'il y a une tache, quoi. Bon, après, il se dit, bon, bah écoute, je m'en fiche, c'est pas ma vie. Il remarque aussi que le téléphone, il est par terre, complètement renversé. Harold, il remet le téléphone sur la table de nuit et il raccroche le téléphone une bonne fois pour toutes et il s'en va. Il aime pas trop l'ambiance, il se casse. Et vers 10h30, rebelote, le téléphone est de nouveau décroché. Donc là, ils disent « Randolph, s'il te plaît ». Donc Randolph, qui en a bien marre de la chambre 1046, ils lui disent « s'il te plaît, retourne une dernière fois. Faut faire quelque chose pour de bon ». Et Randolph, il monte. Et par contre, cette fois-ci, il va pas tomber sur la même scène, quoi. Là, on rentre dans le vif du sujet. Il dit, je cite, « Quand je suis entré dans la chambre, cet homme était à 50 cm de la porte, à quatre pattes, mais les coudes au sol, tenant sa tête entre ses mains. J'ai vu qu'il avait du sang sur sa tête. C'est là que j'ai allumé la lumière, j'ai regardé la pièce, et il y avait du sang partout. Sur les murs, le plafond, sur le lit et partout dans la salle de bain. Ça m'a fait peur, je suis immédiatement ressortie et je suis descendue à la réception. » Bon, là quand même, ils vont faire quelque chose, ils vont arrêter leurs allers-retours toutes les demi-heures. Ils se disent « vas-y, on y retourne, on va examiner le corps » parce que Randolph, il a rien fait, hein. Il a eu peur, il est parti en courant. Et Ronald, il remarque une fois devant son corps, qu'il a des blessures partout, qu'il a été attaché au niveau du cou, des poignets et des chevilles. Donc ils en déduisent qu'il a dû être torturé, son crâne est fracassé, on l'a poignardé plusieurs fois dans le thorax, ce qui lui a perforé un poumon, tout le tour de son cou est marqué par des marques de strangulation. Mais attention, il est vivant. Ne me demandez pas comment, je sais pas, mais il est vivant. Un policier perd pas de temps, hein, il commence à le questionner, bien qu'il soit pas très en forme, le monsieur, il est à peine conscient et il a du mal à parler. Il lui demande s'il a quelconque souvenance de quelqu'un dans sa chambre avec lui, et Roland lui répond « Personne ». Il se souvient de personne dans sa pièce, selon lui. Roland dit qu'il est tombé dans la salle de bain et qu'il s'est cogné contre le rebord de la baignoire.
Ouais, donc ça explique le sang partout, sur les murs et tout, quoi.
Hein. C'est ça, exactement. Donc le lit, tout ça, bien sûr. Et en fait, il s'est cogné, puis ensuite, il est allé danser la zumba dans la chambre à côté, et ça fait gicler le sang.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est pour ça. Le policier lui demande s'il a essayé de se suicider, et Roland répond non. L'interrogatoire se termine là. Roland, il finit par perdre connaissance, et il est emmené rapidement à l'hôpital. Sauf qu'il va y décéder quelques instants après son arrivée, malheureusement. Le médecin dit que ses blessures se sont produites environ 7 heures avant qu'il soit découvert dans sa chambre. Donc il était mal depuis très longtemps. Vous vous souvenez quand le groom il est monté la première fois et qu'il a entendu « Entrez, allumez la lumière !» mais que c'était fermé, bah, il était sûrement en train d'agoniser à ce moment-là déjà. Donc voilà, c'est probablement pourquoi il parlait tout bas. Ou peut-être que c'était Don, son soi-disant ami, qui n'avait pas encore quitté la scène de crime. Ou alors peut-être quelqu'un d'autre, hein, je sais pas. Hein. Peut-être que c'est le tueur qui attend et qui dit « vas-y, rentre », et que bah, il sait que c'est fermé. Et puis si jamais la personne rentre, peut-être qu'il avait prévu de le tuer aussi. La femme d'à côté, dans la chambre, elle avait entendu des gens se disputer, mais c'était la voix de trois personnes. Donc deux hommes et une femme. Que c'était possiblement dans la chambre 1046, mais elle a dit peut-être que c'était peut-être une dispute qui venait de la fête au bout du couloir. Voilà. Ils analysent la scène de crime, les empreintes digitales sur le téléphone notamment, et ils retrouvent ce qu'il semble être des empreintes digitales appartenant à une femme sur le téléphone. Ils ne trouvent aucune arme, rien du tout, que Roland aurait pu peut-être utilisé sur lui-même dans le cas d'un suicide, ou même dans le cas où il se serait fait tuer, hein, parce qu'il a été frappé, etc., poignardé, il ne retrouve rien du tout sur la scène de crime. La police va étudier en détail le registre des clients à la réception. Il voit que Roland a indiqué venir de Los Angeles, mais la police enquête et il trouve personne du nom de Roland T. Owen, de toute la ville, et même, je crois, ils ont dit de tous les États-Unis, il n'y a pas un seul Roland T. Owen. Ils font ensuite quelques recherches pour retrouver son fameux ami Don. Bon, après, ils n'ont pas grand-chose, hein, ils ont juste le prénom Don. Donc la police se demande qui ça peut bien être, mais ils trouvent absolument aucune info, aucune piste sur lui, et qui ça pouvait être. Et pourquoi Roland l'attendait depuis 2 jours dans le noir complet. Ce qui était quand même chelou. Hein.
Ouais, non, mais c'est complètement bizarre. Déjà, sa façon d'agir est ultra chelou.
Ouais. Moi, ça m'a fait penser à un espion un peu. Il y a beaucoup d'histoires d'espions dans les années 1930, là où on retrouve des corps et tout, et puis ils s'enregistrent dans des hôtels, et puis après on les retrouve morts. Enfin, ça m'a fait penser à ça.
Ouais.
Et là, petit avancement dans l'histoire, on va dire, l'hôtel d'à côté, dont Roland n'arrêtait pas de se plaindre, contactent la police et leur disent qu'ils ont hébergé quelqu'un qui correspond à la description de Roland la nuit du 1er janvier. Il se serait enregistré sous le nom de Eugène K. Scott. Donc encore un autre alias. Mais encore une fois, la police elle cherche le nom et elle trouve aucune trace de citoyen américain sous ce nom-là. Donc, la police se stagne et décide de faire enterrer le corps. Avant ça, le 3 mars, elle fait publier dans le journal l'annonce de son enterrement, au cas où quelqu'un à la dernière minute se rappelle de lui, ou je ne sais quoi. Ils mettent une illustration de sa tête dans le journal, et ils mettent « Est-ce que vous reconnaissez cet homme ?» voilà, bref. Et donc ils indiquent qu'ils vont l'enterrer quelques jours plus tard. Et ce même jour, la morgue où se trouvait son corps reçoit un appel anonyme qui leur dit « S'il vous plaît, décalez la date, on est prêt à envoyer de l'argent, tout l'argent nécessaire pour qu'il soit enterré dignement. Mais s'il vous plaît, pas demain. » La personne, elle dit qu'elle aimerait que Roland soit enterré près de sa sœur. Donc le gars de la morgue dit que la police va être mise au courant. Il lui dit tout de suite, tu sais, tu m'appelles là, mais je vais le dire à la police, hein, tout ce que tu me dis. Et la personne lui dit, bah, pas de problème, ça me dérange pas. La personne va même lâcher des informations jusque-là inédites quand le gars de la morgue, oui, je l'appelle le gars de la morgue, mais comprenez les pompes funèbres.
Ouais.
Donc le gars de la morgue va tenter le tout pour le tout. Il se dit, on a une personne intéressante au bout du fil, là, pour l'affaire. Il demande pourquoi Roland a été tué. Et la personne répond, parce qu'il a eu une liaison avec une femme alors qu'il était fiancé à une autre. La personne au téléphone dit qu'elle aurait donc arrangé une rencontre avec les deux femmes et Roland au président hôtel pour se venger. Donc un petit guet-apens sympathique. Elle finira par dire « Le karma s'occupe toujours des trompeurs ». Et sur ce, elle raccroche. L'enterrement est donc repoussé et le 23 mars, la morgue reçoit de l'argent, toujours de manière anonyme, dans une enveloppe dans laquelle se trouve 25$ de l'époque, ce qui correspond à 500$ environ aujourd'hui. La personne contacte de la même manière des fleuristes, puis leur envoie de l'argent, pareil, de manière anonyme, pour livrer des fleurs le jour de l'enterrement. Et bah, ils le font, ils le mettent un arrangement, comme elle l'a demandé, de 13 roses américaines. Elle leur envoie également une carte de vœux dans laquelle elle a inscrit, d'une écriture déguisée, « Love forever, Louise ». Voilà, donc là, elle a signé son blaze. Louise, ça prend des risques. Qui est Louise? Encore une fois, on ne sait pas. Plus de questions que de réponses dans cette affaire. Mais l'enterrement se déroule sans encombre, peu après, avec pour seule présence des officiers de police. Il n'y a vraiment personne qui est venu le jour de l'enterrement. Mais les policiers ils vont revenir surveiller la tombe pendant quelques jours, déguisés en employés de cimetière, pour voir bah, s'il y a quelqu'un qui allait finir par venir voir la tombe, mais personne n'est venu.
Ou alors qu'il y aurait pu y avoir des curieux, tu vois, qui seraient venus.
Ouais.
Si tu avais été à l'époque dans le coin, est-ce que tu y serais allé sur la tombe?
C'est sûr.
Ouais, bah oui.
Mais je pense que peut-être qu'ils ont de... je pense qu'ils ont dû demander, peut-être, s'ils ont vu quelqu'un, ils ont dû lui demander vous êtes qui et tout, ouais. Tu vois, peut-être qu'ils leur ont... Puis au final, personne de suspect n'est venu, j'ai envie de dire.
Ouais.
Quelques jours passent, puis... Nouveau rebondissement, une femme contacte le Kansas City Journal pour leur dire qu'elle avait lu un de leurs articles et qu'elle n'était pas contente parce qu'il disait que l'homme retrouvé mort dans la chambre 1046 serait enterré dans une fosse commune. Sauf que c'était faux, qu'il avait reçu un enterrement tout à fait digne et qu'il pouvait aller demander aux pompes funèbres et aux fleuristes qui s'en étaient occupés. Ils allaient confirmer tous ses dires. Donc voilà, elle n'était pas contente. Il n'était pas enterré dans une fosse commune. Quelqu'un avait payé, et donc ils lui ont demandé « Mais vous êtes qui ?» Et elle leur a répondu « On s'en fout qui je suis, je sais de quoi je parle. » Donc ils insistent et lui demandent ce qui s'est passé, qui est-ce qui l'a tué. Encore une fois, ils en profitent parce qu'on dirait qu'elle a envie de parler. Et elle répond avant de raccrocher « Il s'est mis dans le pétrin. » C'est tout.
Ok.
L'enquête avance pas plus jusque l'année d'après quand une femme du nom de Ruby Ogletree qui était en train de lire un article à propos de l'affaire dans un magazine avec une photo. Le même portrait robot, le même dessin de Roland.
Ouais, qui a été publié précédemment.
Ouais, et bien elle va le reconnaître immédiatement. C'est le visage de son fils.
Ah.
Son fils qu'elle n'a pas vu depuis 1934. Elle dit qu'il s'appelait Artemus et qu'il avait 17 ans. Donc il est beaucoup plus jeune que la description de Roland qui était celle d'un homme entre 20 et 35 ans. Mais au final... La police, elle reconnaît cette identification comme officielle. Roland est bien son fils Artemus. Voilà, donc il a une identité maintenant. Chose bizarre, elle avait reçu 3 lettres de son fils depuis son départ, mais elles étaient datées du printemps 1935, donc c'est après sa mort, du coup. Donc c'est pas possible qu'il les ait écrites lui-même, puisqu'il est mort en janvier, et elle les a reçues au printemps. Des lettres dans lesquelles il dit partir pour New York, ensuite en Égypte carrément. Donc voilà, il est mort, mais apparemment il continue de voyager. En plus, elle dit que son fils ne savait pas taper à la machine à écrire et que le langage utilisé dans les lettres était trop familier. Son fils ne s'exprimait pas comme ça, en tout cas pas avec elle, et encore moins dans une lettre, hein, parce que c'est assez formel à l'époque. C'était pas du tout sa manière de parler, elle reconnaît pas son fils. La mère reçoit un appel anonyme en août 1935. Qui dure quand même une trentaine de minutes, d'une personne qui dit être originaire de Memphis, dans le Tennessee, et il saurait où se trouve son fils, il serait au Caire, en Égypte. que son fils lui aurait sauvé la vie dans une bagarre et qu'il ne pouvait pas la joindre lui-même parce que bah voilà, il habite en Égypte, il est marié à une femme très riche et tout va bien dans le meilleur des mondes.
Bah, je vois pas pourquoi il pourrait pas l'appeler, mais ok.
Bah, surtout si sa femme est très riche, c'est pas un problème de forfait, quoi.
Bah, je pense, ouais.
Il rajoute qu'Artémus ne peut pas lui écrire non plus parce qu'il aurait perdu un de ses pouces dans la fameuse bagarre. Alors, excusez-moi, mais tu peux quand même taper à la machine à écrire avec 9 doigts. C'est quand même faisable. Voilà, il lui dit non, mais en plus, vraiment, il peut pas vous écrire parce qu'il lui manque un pouce. La mère dira à la police que la personne paraissait très agitée au téléphone et irrationnelle dans ses propos, mais elle avait l'air quand même de bien connaître son fils bizarrement. On découvre quelques temps plus tard que son fils Artémus Ogletree aurait séjourné dans un troisième hôtel et après quelques recherches, ils se rendent compte qu'il n'était pas tout seul, il était avec un autre homme. Donc il se baladait dans la ville de Kansas City d'hôtel à hôtel avec un autre homme. On ne sait pas qui, mais du coup peut-être que c'était Don. Donc en fait, il allait d'hôtel en hôtel à Kansas City, donc le premier qui était trop cher, un autre, et il y avait toujours histoire d'un autre homme avec lui en fait. En 1937, la police a peut-être un semblant de piste quand la police de New York arrête un homme nommé Joseph Martin. Enfin, ça devait être Joseph Martin. Et il l'arrête pour meurtre. Il aurait tué un homme avec qui il aurait partagé une chambre et aurait jeté le corps dans un coffre de voiture en direction de Memphis. Memphis, on parlait de Memphis tout à l'heure. Enfin, le gars anonyme, il appelle de Memphis. Donc ça se lit. Hein. Lui aussi avait plusieurs noms, plusieurs alias, et l'un d'entre eux était Donald Kelso. Donc ça commence par Don.
Ouais.
Enfin, après, c'est un alias, mais quand même, il y a plein de prénoms dans le monde. Et comme par hasard, il y en avait un, c'était Donald. Est-ce que ça pourrait être Don ? La police n'arrive pas à joindre les deux affaires ensemble, donc son implication dans le meurtre de Roland, elle est mise de côté, et par manque de preuves au fil des années, ils ont fini par lâcher l'affaire.
Ça pourrait être probable, mais ils n'ont rien, quoi.
Ouais, mais du coup, c'est des coïncidences très bizarres. Et là, on va faire un grand bond dans le temps, jusqu'aux années 2000, 2012 plus précisément. Le docteur John Horner, un historien de la bibliothèque de Kansas City, écrit brièvement sur l'affaire. Il publie deux articles sur le blog de la bibliothèque, dans lesquels il révèle qu'en 2003, il a reçu un appel anonyme. Fatigué avec leurs appels anonymes. Un appel anonyme de quelqu'un qui se disait proche de l'affaire, mais qui n'est pas dans le même état. Donc il n'est pas du Kansas City, peut-être de Memphis, comme l'appel de la mère. Et la personne veut lui parler du fameux Artémus. Donc il ou elle va lui dire qu'il a trouvé une boîte dans laquelle il y a une panoplie de coupures de journal en relation avec l'affaire, et qu'il ou elle est tombé sur cette boîte suite au décès d'une personne âgée, et que voilà, ils sont tombés dessus en rangeant ses affaires après sa mort. Et cette boîte contiendrait vraiment beaucoup d'informations sur le meurtre de Roland. Il y avait dans cette boîte un objet dont la police fait référence dans leur rapport, et qui apparaissait également dans les articles de journaux de l'époque. Donc voilà, quelque chose en rapport avec l'affaire, peut-être un objet retrouvé sur la scène de crime, sur le corps, en tout cas quelque chose qui montre que la personne décédée qui gardait cette boîte, elle était bel et bien connectée à cette affaire, et elle en savait plus que tout le monde parce que carrément elle gardait les objets, quoi.
Mais on sait pas de quel objet il s'agit.
On sait pas du tout ce que c'était l'objet en question. Donc voilà, toutes ces années après, c'est quand même dingue de se dire que tout ce temps-là, il y avait quelqu'un qui connaissait la vérité et qui l'a gardée pour lui jusque sa mort. Après, ça fait un petit peu fanatique, hein, les coupures de journal, etc. Enfin bon, je dis ça, je dis rien.
Ouais, sinon, ça pourrait être quelqu'un super intéressé par le dossier à l'époque et qui a collecté tout ce qu'il pouvait, quoi.
Aussi. Mais pourquoi il a un... Enfin, le bonus, c'est quand même qu'il a un objet qu'il n'est pas censé avoir.
Ouais.
Un objet important dans l'affaire, quoi. Donc, la personne qui appelle pour leur parler de la boîte, donc c'est ce que je disais, elle conserve... encore le mystère, en passant des coups de fil anonymes, déjà, elle dit pas son nom. Je sais pas si c'est vrai, mais son histoire de « ouais, c'était la boîte d'un mort », etc. Mais je comprends pas pourquoi elle continue à garder le secret.
Bah oui.
Bah, tu peux dire « j'ai trouvé une boîte, je vous l'envoie, regardez ». Enfin, même, ça peut être intéressant. Enfin, je dis pas « faut passer à la télé hein, », le but, c'est pas d'être famous ou quoi, mais bah, de dire « regardez, il y a un truc intéressant pour une affaire, ça date », etc. Enfin bon. Bref, donc moi je trouve ça, je trouve que les appels anonymes, ça commence à faire beaucoup là, et que c'est louche en fait. Même si t'es de la famille du tueur, c'est pas toi le tueur. Enfin, tu récupères la boîte, c'est pas toi, enfin, ça te regarde pas.
Ouais, tu vas pas aller en prison pour ça, quoi.
Ouais, voilà, il y a prescription. Enfin, je pense qu'il y a prescription quand même. Bref, au final, le coup de téléphone, il sert à rien. À part dire j'ai une boîte mystère.
Mais pourquoi 70 ans plus tard, quoi? C'est...
Ah bah, parce que soi-disant, la personne est morte et ouais. Quelqu'un est tombé dessus. Mais le truc, c'est que si t'es tombé dessus, pourquoi tu fais encore la personne anonyme? Enfin, c'est bon, enfin... Après, si tu veux pas révéler l'identité de la personne qui vient de décéder, ok, mais... Enfin bon. Et puis aussi, j'ai pensé que peut-être le gars, le bibliothécaire, là, qui écrit son article, peut-être qu'il a inventé aussi cette histoire de coup de fil anonyme. On sait jamais, hein, pour donner un petit boost à sa carrière d'écrivain de post de blog en ligne, là. Peut-être qu'il s'est dit, vous savez... Parce que c'était il y a quand même 12 ans, hein. Il dit en 2012 qu'en 2002, il a reçu un appel anonyme. Il a attendu 12 ans pour le dire.
Bah oui, carrément.
Ils sont tous louches. Arrêtez-les tous.
Il n'y a rien qui va dans ce truc.
Ça, c'est tous les trucs qui restent non résolus, on va dire, en 2012. Et maintenant, on va parler de quelques théories de ce qui a bien pu se passer dans cette chambre, puis après aussi, hein, parce qu'avec tous les appels anonymes, il s'en passe des choses. Alors déjà, la première théorie la plus simple, enfin la première théorie, première explication, c'est qui est Don et pourquoi il a tué Roland. Parce qu'on se dit que c'est lui qui a tué Roland. Hein. Il y avait personne d'autre.
Bah, il y avait possiblement une femme. On n'est pas sûr.
Oui, ouais. Il y avait possiblement une femme. Enfin, on va partir sur juste Don pour l'instant. Pourquoi est-ce que son ami l'aurait tué? Pourquoi est-ce qu'il se donne rendez-vous dans un hôtel? Pourquoi il le tue dans un hôtel? Parce que c'est pas très discret. Est-ce que c'est vraiment son ami déjà? Qui sait même Don, est-ce que c'est un mafieux? Parce que Don, c'est un petit peu un nom de mafieux, hein, on va pas se mentir. Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est un dealer? Pourquoi est-ce que Ronald utilise une fausse identité aussi, dans deux hôtels différents? Pourquoi il est parti de chez lui aussi en 1934, à 17 ans, de chez sa mère, on se demande. Ça fait un an, en fait, qu'il voyage.
Et on dirait qu'il cherche à fuir quelque chose.
Puis il fait le mec mystérieux qui s'assoit sur des lits dans le noir. Donc même lui, il est louche. Puis qui est la femme en question que la femme de la chambre d'à côté a entendue? Il y avait une femme qui est intervenue apparemment. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une dispute vers 16h déjà, vous savez, quand ils étaient en train de chuchoter, enfin non, quand ils étaient en train de discuter, quand Marie est revenue, la femme de chambre, elle écoutait à la porte et que ça lui a dit non, repars avec tes serviettes, on n'en a pas besoin. Déjà, c'était une conversation tendue apparemment. Elle disait que c'était tendu, elle s'est dit bon, je vais me casser. Et puis plus tard, c'était encore plus tendu quand les insultes, elles ont fusé avec la femme anonyme. Et un truc aussi qui est quand même perturbant, c'est pourquoi est-ce que Roland, enfin Artemus, il les protège à la fin vis-à-vis du policier qui lui pose des questions, alors qu'il est au bord de la mort, il dit « Non, je me suis cogné la tête dans la salle de bain, sauf qu'il y a du sang partout sur les murs de la chambre, le plafond, etc. » Ces trucs autour du cou, il se fait torturer, frapper, enfin... Pourquoi est-ce qu'il dit pas ce qui s'est passé et il maintient qu'il était tout seul alors que ça fait deux jours qu'il y a des gens qui disent qu'il attend un ami, qu'il y a des voix à l'intérieur qui se disputent, enfin voilà, quoi, ça fait aucun sens. Est-ce que c'était une histoire d'infidélité et de règlement de compte, comme le disait la femme au téléphone, peut-être? Moi je pense que c'est sûrement la théorie la plus développée, on va dire. Parce que la femme, elle arrête pas d'appeler anonymement, genre elle est vraiment impliquée, elle envoie de l'argent, elle dit que c'est un connard, mais que, qu'il a eu ce qu'il méritait, mais s'il vous plaît, enterrez-le près de ma sœur, pas dans une fosse commune. Elle dit son nom, Louise, je sais pas si c'était le nom de sa sœur, enfin, possiblement c'est le nom de sa sœur, je pense.
Du coup, on doit savoir qui est la fille qui appelle si on connaît sa sœur.
Bah ouais, mais apparemment ils ont trouvé personne. Hein.
Putain, c'est ouf.
Mais ouais, c'est bizarre parce que du coup, si on sait que c'est Artemus... La mère d'Artemus, elle doit forcément savoir avec qui il avait l'intention de se fiancer.
Oui.
Enfin, de se marier.
Bah, après, il était parti depuis un an.
C'est vrai, ouais, j'avoue.
En fait, la théorie là, de l'infidélité, j'y crois pas trop. Tu vas pas changer d'identité, tu vas pas te barrer pendant un an parce que t'es infidèle. Puis t'as que 17 ans, quoi. On peut être infidèle à 17 ans, est-ce que c'est grave?
il était fiancé. Il avait dit à une meuf, je vais me marier avec toi. Non, c'est et au final,
Ouais, à 17 ans à l'époque, t'en avais 30 quoi, dans la tête.
Et puis en plus, sa sœur, elle a l'air d'être morte. Donc j'espère qu'elle n'est pas morte à cause de ça. enfin, tu vois, qu'elle s'est pas suicidée ou quoi. En tout cas, sa sœur, elle est bien en colère contre lui. Elle lui dit qu'elle, ben, voilà, elle l'a mérité, etc. Que, en gros, elle appelle pour faire une tombe, mais on dirait que c'est selon le souhait de sa sœur, qui forcément, bah, elle devait l'aimer, hein, le Artemus. Donc voilà, elle s'occupe de son sort et tout. Enfin, je trouve que, enfin, c'est un peu louche. Enfin, pour moi, la femme qui appelle et tout, elle a une histoire qui est quand même
Il y a un lien,
solide, je trouve.
ouais, il y a un lien entre les
Ouais.
deux. Mais c'est pas pour ça qu'elle a dit la vérité en parlant de l'infidélité, quoi. Valentine, s'il veut fuir quelque chose, il a peut-être fait appel à quelqu'un pour se faire tuer. Peut-être que la personne qui est venue serait un tueur à gages.
Ouais, c'est ce que j'avais écrit du coup, mais j'étais dit que peut-être, parce qu'elle le dit, hein, qu'elle a organisé un guet-apens, qu'elle a fait venir les deux femmes, donc sa sœur et bah, la femme avec qui il a trompé, dans l'hôtel, donc c'était fait exprès. Donc possiblement qu'elle a engagé peut-être le mec qui s'est fait arrêter à New York, Donald,
Ouais.
pour tuer Artemus, vu que c'est un criminel. Ou peut-être juste lui faire peur, hein, mais bon, au final... Je sais pas si elle l'aurait tué devant sa sœur, devant sa fiancée. Enfin, c'est un peu hardcore. Pour moi, je pense que c'est la piste la plus fournie. Je sais pas, moi, je pense qu'il y a dû avoir une histoire de meuf. Et je me dis que comme elle prend à cœur le sujet parce que c'était sa sœur, enfin, qu'elle dit la vérité, tu vois. Puis même, elle fait un effort quand même. Elle paye pour enterrer le gars qui bah, qu'elle a voulu tuer et qui a trompé sa sœur, quoi. Donc. Quand même, enfin je sais pas, je trouve que ça fait un témoin quand même assez solide. Enfin, il y a une histoire derrière qui est solide, je trouve.
Du coup, est-ce que je passerai pas à la mienne, à moins que le chat ait des théories ou des choses comme ça?
Bon, est-ce que vous avez des théories autres?
Il y a Valentine qui dit dans le chat qu'il y avait peut-être une histoire comme quoi le gars serait gay, sûrement un rapport à l'infidélité. Mais
Ah, bah
c'est
oui,
vrai que
peut-être.
quand tu as dit que pendant quelques mois, il faisait plusieurs hôtels avec un mec.
Oui, ouais, moi aussi j'y ai pensé, mais c'est vrai que.
Ouais, j'y ai pensé aussi et je me suis dit, bah. 1935, quoi, c'est pas 2022, hein.
Peut-être.
C'est pas pareil, quoi.
Ouais, sûrement, c'est vrai que je l'ai pensé, mais dans ma tête.
Et là, du coup, ce serait plus qu'une infidélité, tu vois, ce serait aussi peut-être la honte sur la famille ou un truc comme ça. Très intrigante cette histoire, moi je la connaissais pas, tu vois.
Ah, elle est bien, mais bon, ça rend dingue, hein.
Bah ouais, on n'aura pas de réponse, hein. De toute façon, maintenant, elle a presque 100 ans, cette histoire.
Ouais. Après, tu sais pas, il y aura peut-être un appel anonyme. Bientôt.
Pour ce sujet, je me disais que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de légendes urbaines, et je suis tombé récemment sur une vidéo d'un reportage d'époque qui parlait de la Dame Blanche de Palavas-les-Flots, dans le département de l'Hérault. Alors je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revenir sur cette apparition qui a eu lieu il y a plus de 40 ans, et je voulais en profiter également pour parler des autres représentations de la Dame Blanche à travers les époques, à travers les régions. Mais on va commencer du coup par le documentaire de Palavas-les-Flots. Et donc, on va revenir à ce qui s'est passé le 20 mai 1981. Palavas-les-Flots, c'est une petite ville d'environ 5000 habitants au bord de la mer Méditerranée, à environ 17 km de Montpellier. L'histoire commence justement avec quatre jeunes Montpelliérains qui sont âgés de 17 à 25 ans et qui décident de faire une virée en mer à Palavas-les-Flots. Donc, ils y sont allés, ils se sont promenés sur les quais de la ville, ils ont pris un verre. Ensuite, une fois que leur soirée était terminée, ils ont décidé de rentrer à Montpellier vers minuit, minuit et demi. Ils sont partis à bord de leur Renault 5, deux garçons à l'avant et les deux filles à l'arrière. Sur le bord de la route, avant le pont des Quatre Canaux, donc juste à la sortie de Palavas-les-Flots, ils aperçoivent une auto-stoppeuse d'une cinquantaine d'années qui porte un imperméable et un foulard blanc. Elle leur demande simplement.
Pouvez-vous me déposer à Montpellier?
Ils acceptent alors de l'amener avec eux, et elle s'assoit à l'arrière entre les deux passagères, donc entre les deux filles. La voiture repart, mais la personne qui vient de rejoindre les quatre jeunes ne prononce aucun mot et semble de plus en plus nerveuse à mesure qu'ils avancent. Et 1 km plus loin, à l'approche d'un passage dangereux, c'est un lieu-dit qui s'appelle le Pont Vert, elle s'exclame
Attention au virage! Attention au virage!
Ça surprend le conducteur qui ralentit. Et du coup, ils passent le virage sans problème. Ce n'est que quelques centaines de mètres plus tard que ce sont deux autres cris qui se font entendre. Ce sont ceux des deux passagères de l'arrière. Elles sont horrifiées parce que la femme a disparu. La voiture, pourtant, elle roulait à 90 km/h et les portières étaient fermées. Alors, ils décident direct de se rendre à la police pour en parler. À les croire, qui venait de rencontrer la Dame Blanche. Il faut savoir qu'aucune des quatre personnes interrogées ne s'intéressait au spiritisme ou alors autre sujet lié au paranormal. Vincent Melgozo, c'est un membre du laboratoire parapsychologique de Toulouse à l'époque, il a dit, je cite, « Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, mais ils m'ont paru sincèrement terrifié. » Pour lui, il y avait trois hypothèses possibles. La première, ce serait que les quatre témoins se seraient accordés à mentir. Ils semblaient en fait réellement terrifiés et ils gagnaient rien en fait à mentir. Surtout qu'ils n'ont jamais joué sur ça plus tard, ils sont vite retournés dans l'anonymat. Et puis, lorsqu'ils ont été interrogés chacun de leur côté à part, ils ont tous les quatre décrit exactement le même phénomène. Il n'y avait aucune incohérence dans leurs propos. La police ne doutait pas non plus de leur sincérité. Donc pour la police, ils disaient la vérité. La deuxième hypothèse, ce serait une hallucination possible sous drogue ou alcool. Mais c'était a priori pas le cas, parce que le commissaire de police a assuré que les jeunes n'étaient ni sous l'emprise d'alcool, ni sous l'emprise de drogue. Quand ils sont arrivés au poste, en tout cas.
Okay.
La troisième hypothèse, ce serait celle d'une auto-persuasion dans un contexte propice. Mais c'est pareil, c'est assez compliqué à prouver, en fait. Et si, au final, on cherchait des explications à un phénomène qui n'en est pas un, peut-être, au final, que c'est vraiment une Dame Blanche qui était juste là pour les prévenir d'un danger et qui leur a sauvé la vie.
Bah oui.
Je ne sais pas. Donc, le mystère reste entier. Si ça vous tente, on pourra regarder le documentaire à la fin, quand on aura fini l'enregistrement du live. Il dure 10 minutes et puis il est pas mal intéressant parce qu'en fait, on voit les personnes de l'époque, on voit les quatre jeunes.
Ah, trop bien.
Ils ont été interrogés, donc ils ont témoigné et puis il y a une petite reconstitution aussi qui a été faite. Donc, plutôt cool. Et donc, le cas de Palavas-les-Flots, c'est le cas le plus connu d'apparition de Dame Blanche en France. L'année suivante, il y a eu un autre cas similaire en Vendée. Celui-là, il a été beaucoup moins médiatisé. Cette fois, c'était pas une Dame Blanche, mais c'était un moine qui a été pris en stop. Le moine, il a pas parlé pendant un moment, puis un moment, il a juste dit « Ce printemps est chaud, l'été sera brûlant, l'automne sanglant. » Puis il a disparu subitement lui aussi. Trop chelou.
C'est une énigme du père Fouras.
Ça fait trop ça, ouais. Sauf que l'énigme, elle a jamais été résolue, quoi. Tu vois, il a disparu et puis on en a plus jamais entendu parler, quoi. Il y a une autre histoire que j'aime bien, qui est assez similaire, qui s'est passée aux États-Unis à Chicago, un petit peu avant, du coup, en janvier 1979, un chauffeur de taxi s'est arrêté pour prendre une femme habillée en blanc devant l'entrée du cimetière de la Résurrection. Mais avant qu'il ne puisse la laisser rentrer, la femme a disparu. Le chauffeur de taxi venait de rencontrer le fantôme de Marie, connu sous le nom de Resurrection Mary, parce que Marie, là, du fantôme du cimetière de la Résurrection. Ça sonne un peu mieux, Resurrection Mary. La première personne à avoir rencontré Marie s'appelait Jerry Palus. C'était en 1939. C'était dans une salle de danse de Chicago où Jerry était un habitué. Il a été captivé par une jeune femme blonde et il lui a immédiatement proposé de danser. Il a appris peu de choses sur elle, juste qu'elle s'appelait Marie et qu'elle vivait au sud de la ville. Il a dansé avec la jeune femme toute la nuit. Au moment de partir, il lui a proposé de la ramener à la maison. Elle lui a dit où elle habitait, mais en passant devant le cimetière de la Résurrection, elle lui a demandé de s'arrêter, et elle a disparu sous ses yeux. Le lendemain, il s'est quand même rendu à la maison où Marie avait dit qu'elle vivait. Jerry a trouvé la maison sans problème, donc elle existait bien. La femme qui a répondu à la porte, c'était la mère de Marie. Lorsque Jerry a demandé s'il pouvait voir sa fille, elle lui a répondu que Marie était morte depuis 5 ans.
Comme par hasard.
Comme par hasard. Et donc, on en sait un petit peu plus sur Marie. On sait qu'elle s'appelait Marie Bregovi. Elle a été tuée dans un accident de la circulation en 1934, un mois avant son 21e anniversaire. Donc, elle était toute jeune. Elle a été inhumée au cimetière de la Résurrection dans sa robe blanche préférée. Voilà, voilà. Au fil des ans, Resurrection Mary a été vue à maintes reprises dans des clubs de danse, dans des taxis. On pouvait la voir marcher à l'extérieur du cimetière.
Ah ouais, en boîte carrément.
Ah, elle allait en boîte, bah écoute, elle est morte en pleine jeunesse, tu vois, elle n'avait pas fini quoi.
Ouais, c'est vrai.
A priori, quand elle marchait à l'extérieur du cimetière, elle essayait de trouver quelqu'un pour la ramener à la maison. On a eu un témoignage d'une femme et son mari qui, en 1980, l'ont aperçue en train de marcher près du cimetière alors qu'ils étaient en voiture. Selon eux, elle était très lumineuse et elle marchait lentement. Ils ont décidé ensuite de revenir sur leurs pas, mais elle avait disparu. Forcément. En octobre 1989, c'est une femme qui s'appelle Janet Kalal qui se promenait avec un ami. Ils l'ont tous les deux aperçue. Et en fait, ils ont même fait plus que l'apercevoir, parce que Resurrection Mary s'est placée devant la voiture qui l'a heurtée de plein fouet.
Oh.
La voiture, elle est restée en parfait état, mais Janet savait qu'elle avait heurté quelque chose. Elle a décrit la femme comme étant toute blanche et avec des cheveux qui flottaient. Et du coup, je trouvais ça marrant, en fait, le fait qu'elle l'ait heurtée, parce qu'on sait que la vraie Marie, enfin la Marie de l'époque, elle est morte dans un accident de voiture.
Mm.
Donc ça, c'est les histoires les plus connues au sujet de Dame Blanche au bord des routes. Mais la légende de la Dame Blanche ne s'arrête pas là. Le mythe commence bien plus tôt dans l'histoire, et j'ai l'impression en fait que chaque région a sa propre Dame Blanche, parfois malveillante, parfois protectrice. Et donc je vais revenir sur certaines de ces histoires, mais d'abord j'aimerais passer très vite sur l'une d'entre elles, une légende, donc c'est la légende de la fée revenante. Elle date du Moyen-Âge, elle relie la Dame Blanche à une fée qui s'attaque à tous ceux qui l'approchent. Pour certains, ce serait la fée Mélusine, une créature condamnée à vivre avec une queue de serpent pour avoir tué son père. Mais avant d'avoir tué son père, c'est une fée bâtisseuse. Elle construisait des villes et des villages. Moi, je vais déménager en octobre dans l'un de ces villages. Et du coup, j'aimerais bien faire un épisode complet sur la légende de la fée Mélusine, en étant directement sur les lieux, je sais pas, peut-être interroger de locaux, j'en sais rien. Du coup, je vais me garder cette histoire de côté, cette légende de côté, et je vais vous parler des autres dames blanches que j'ai pu découvrir. L'une des dames blanches les plus anciennes remonte à l'Empire romain. Elle était connue comme étant la messagère annonciatrice d'une mort imminente. Selon certaines légendes, son message pouvait différer selon la couleur de ses gants. En gros, elle annonce une mort si elle porte des gants noirs, mais elle peut aussi annoncer un heureux présage si ses gants sont blancs. Elle venait visiter les membres des familles aristocratiques juste avant de mourir. À chaque fois, c'était des riches, hein. Je sais pas, les pauvres, ils n'avaient pas le droit de... ils n'avaient pas le droit d'avoir la visite de la Dame Blanche, je sais pas pourquoi. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur pas mal d'exemples de membres de familles royales qui auraient aperçu la Dame Blanche sur leur lit de mort. Après, ça me paraît pas impossible, parce que juste avant de mourir, tu sais, on peut avoir des hallucinations et voir des trucs bizarres. Par contre, il y a un cas un petit peu à part, c'est celui de l'impératrice d'Autriche, Elisabeth de Wittelsbach, qu'on connaît surtout sous le nom de Sissi l'impératrice. Elle serait donc apparue distinctement devant l'impératrice 11 jours avant son assassinat à Genève en 1898. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle avait eu le temps en fait, d'en parler autour d'elle avant de mourir.
Mmh.
Et du coup, j'ai pas d'explication rationnelle pour ça. Donc elle avait vu la Dame Blanche avant de mourir, elle en a parlé autour d'elle, et puis 11 jours plus tard, quoi, elle était dead, assassinée.
La fée des riches.
La fée des riches, ouais, grave. Ok, donc ça, c'est la Dame Blanche qui est plutôt messagère de la mort, on va dire. On va passer dans le folklore celtique, où la Dame Blanche se présente sous la forme d'une lavandière de nuit. Je sais pas si tu sais ce que c'est qu'une lavandière.
C'est la meuf qui lave le linge.
Ouais, c'est ça.
Non, mais ça me fait penser parce que quand j'avais fait mes études en Irlande, j'avais pris un cours sur la littérature paranormale du 19e siècle.
Ouais.
Et genre, on a fait toutes les légendes celtiques et tout, justement, les fées, les machins, les Bridget. Et
ah,
et
bah, t'as dû en entendre parler de la lavandière alors.
Ouais, sûrement.
Ouais, parce que du coup, elle est connue en Irlande, elle est connue en Écosse aussi, en Bretagne, donc par chez nous aussi.
Mm.
La lavandière de nuit, c'est une femme qui aurait assassiné ses propres enfants. Elle est donc condamnée à laver son linge pour l'éternité pour expier ses anciens péchés. Les premières mentions de cette dame blanche datent du 8e siècle, mais on trouve aussi des récits plus récents qui datent du 20e. La légende peut varier justement selon les régions. La raison pour laquelle elle est maudite à laver du linge pour l'éternité n'est pas toujours la même. Parfois, c'est parce qu'on a affaire à une lavandière qui était malhonnête et qui, par cupidité, avait remplacé le savon par des cailloux. Et donc, en plus de ne pas réussir à laver le linge, bah, ça les abîmait. Donc, elle doit donc maintenant laver le linge qu'elle n'arrivera jamais à rendre propre pour l'éternité. Il y a aussi la version de la lavandière qui aurait enfreint la règle religieuse du repos dominical. En gros, elle aurait lavé du linge un dimanche. Et donc, maintenant, elle est condamnée à ne jamais se reposer.
Ça, c'est en France, ça.
Ouais, ça doit être ça, ça doit être... C'était soit une manif, soit, en gros, elle était condamnée à tout le temps laver son linge. Et toi, du coup, quand t'étais en Irlande, t'avais une autre raison, ça, tu t'en rappelles ou pas?
Enfin, là, franchement, après, je me souviens plus de tout. Hein. Enfin, après, on parlait des Banshees.
Ben, je crois, justement, c'est la Dame Blanche d'Irlande, je crois, la Banshee.
Après, il y en a tellement des histoires. Il y a la meuf qui lave son linge, il y a l'autre qui fait je sais plus quoi. Toujours auprès de la rivière, hein, en tout cas.
Ouais.
Ils aiment bien dire ça. Après, c'est peut-être parce que c'est une femme, hein, elle est condamnée à laver hein, après la mort, c'est tout. Hein.
Ouais, c'est triste, ça, quand même. En tout cas, si vous vous déplacez en Bretagne, vous pourriez peut-être l'apercevoir en train de laver son linge au clair de lune en chantant, parce qu'elle chante aussi. Si elle vous repère et qu'elle vous demande de l'aide, ne l'approchez pas. Elle prendrait un malin plaisir à vous torturer et à vous tuer. Et si c'est pas le cas, elle pourrait également vous annoncer votre mort en hurlant.
C'est la banshee, la fantôme qui gueule, quoi.
Ouais.
En gros, faut jamais les aborder, quoi. C'est tout le temps pareil. Faut jamais leur parler. Sinon, ça y est, t'es dans la merde.
Faut les laisser tranquilles.
Ouais.
Dans un autre registre, je suis tombé également sur une liste d'une quinzaine de châteaux en France qui seront hantés par une dame blanche.
Oh, trop bien.
On dit parfois qu'elle garderait des trésors légendaires. Il y en a trois qui ressortent un petit peu plus que les autres. Déjà, dans le Périgord, la dame blanche du château de Puymartin, ce serait le fantôme de Thérèse de Saint-Clar. Une légende raconte que vers 1560, son mari l'a surprise dans les bras d'un autre homme. Par jalousie, il a tué l'amant. Il a ensuite emprisonné Thérèse dans la tour nord du château pendant 15 ans. Après sa mort, le mari a décidé d'enfouir le corps de sa femme dans les murs. Et depuis, certains habitants et visiteurs du château affirment avoir aperçu cette dame blanche ou alors avoir entendu des bruits de pas dans l'escalier qui mène justement dans sa tour. Il y a aussi Mathilde Lempresse, qui était la petite-fille de Guillaume le Conquérant et la grand-mère de Richard Cœur de Lion, et qui apparaîtrait sous forme aussi de dame blanche. Suite à sa dépossession du trône d'Angleterre, elle a été enfermée pendant 5 ans à l'abbaye de Mortemer. On raconte maintenant qu'elle viendrait hanter l'abbaye à ses heures perdues. Par contre, si vous promenez dans les environs et que vous apercevez son fantôme avec des gants noirs, vous mourrez dans l'année. Donc, il y a toujours, tu vois, cette histoire d'emprisonnement, il y a encore cette histoire de gants qui revient.
Ouais, puis elle veut qu'on crève, quoi.
Elles sont pas super bienveillantes, hein, généralement.
Non, je crois pas, non.
On a aussi une autre histoire au château de Trécesson, dans le Morbihan. Au milieu du XVIIIe siècle, un braconnier aurait assisté à une scène sordide. Un attelage de chevaux noirs se serait arrêté dans les jardins du château. Deux hommes auraient commencé à creuser une tombe avant de sortir violemment une jeune femme de la carriole, vêtue d'une robe blanche et tenant un bouquet de fleurs. Celle-ci aurait supplié les hommes d'épargner sa vie. Cependant, ces derniers l'auraient précipitée dans la fosse, puis enterrée vivante. Et depuis, on raconte que le château de Trécesson est hanté par le fantôme de cette dame blanche. Donc elle est plutôt classique, celle-là. Et honnêtement, en fait, j'en ai vu plein des histoires de dames blanches dans plein de régions, dans plein de pays. En fait, il faudrait limite plusieurs épisodes de podcast pour toutes les énumérer. On a par exemple la Llorona au Mexique.
Oui.
On est de nouveau sur une femme qui a tué et a perdu ses enfants et que l'on peut entendre pleurer la nuit à leur recherche.
Ouais.
D'ailleurs, on a eu un film sur la Llorona il y a quelques années, je ne sais pas si tu l'as vu.
Je ne sais plus, mais oui, je vois, j'ai l'affiche avec les deux L là.
Ouais.
J'ai l'affiche dans la tête. Je ne sais plus si je l'ai vu, je crois que oui.
Il est dans l'univers de Conjuring et il n'est pas si ouf en vrai. Hein.
Ouais, non, c'est pour ça que j'ai dû l'oublier.
Il est pas très marquant, mais bon, voilà, ça entretient un peu le lore de la Llorona. Au Québec, on a aussi une dame blanche, et chez eux, c'est une future épouse qui aurait revêtu sa robe de mariée pour se suicider. Du coup, au niveau de la chute d'eau de Montmorency, parce que son mari a été tué à la guerre. On raconte que les soirs de pleine lune, on peut apercevoir sa forme dans l'écume en bas de la chute. Donc là, on n'est pas sur de la vengeance, on est plutôt sur de la tristesse, quoi.
C'est dramatique. Hein.
Ouais.
C'est bizarre que ce soit toujours que des femmes. Ils ont peur des femmes, peut-être. Hein. Est-ce que des femmes, tout le temps errantes, qui pleurent leur bébé, leur mari ou leur vie perdue. Mais il n'y a pas des hommes blancs un peu partout. C'est un peu romantique, c'est ce que je veux dire.
Non, mais c'est vrai que quand tu regardes quasiment toutes les histoires de dames blanches, c'est une femme qui a perdu quelque chose, ouais.
C'est vrai.
Elle a perdu, perdu ses enfants, soit parce qu'elle les a tués, soit parce que y a eu une tragédie. Elle a perdu son mari. Il y a quand même l'autostoppeuse qui est un peu différente.
Oui, c'est vrai. C'est un peu plus poussé.
Et encore, la dame blanche aux États-Unis, on peut dire qu'elle a perdu sa jeunesse. Je ne sais pas.
Bah oui, oui, tout à fait. Ouais. Bah, elle a perdu la vie hein, dans un accident. Hein.
Moi, ce qui m'aurait intéressé, j'ai pas trouvé d'infos, tu vois, sur le sujet. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une femme d'une cinquantaine d'années qui serait morte justement au pont près de Palavas-les-Flots, un accident de voiture?
Ah bah si, bien sûr. C'est sûr. Tous les coups.
Ça aurait été trop bien de la retrouver, quoi. De pouvoir lui donner un nom, en fait. Mais bon, j'ai pas trouvé d'infos sur le sujet. Bah donc, moi, j'ai à peu près terminé mon sujet. Si on récapitule, si vous voyez une dame blanche sur le bord de la route qui fait du stop, n'hésitez pas à la prendre. Elle pourrait peut-être vous sauver la vie. Par contre, si vous en rencontrez une en train de laver son linge, en train de chanter, elle ne vous veut pas du bien, donc faites tout de suite demi-tour.
Ouais.
Si elle n'est ni en train de laver son linge, ni en train de faire du stop, regardez ses gants. S'ils sont noirs, courez. S'ils sont blancs, elle a peut-être quelque chose d'intéressant à vous dire.
Je vais vous parler du fantôme du village Hammersmith. Donc c'est pas loin de Londres, en Angleterre. C'est une histoire qui remonte au début du 19e siècle, une époque où tout le monde était assez affolé par les histoires de fantômes, vous vous imaginez bien, surtout dans les campagnes. Et justement, Hammersmith, c'était un village limitrophe de Londres, et c'était un petit peu la limite entre voilà, la capitale et la campagne profonde. Donc ça se passe plus exactement en 1804. C'est un village tout beau, tout neuf, beaucoup de bâtiments viennent d'être construits, donc tout est récent, tout le monde est content, sauf que ils ont un gros problème qui les hante, littéralement, ils ont un fantôme au village. C'est vraiment le sujet du moment, ils sont obsédés et ils sont surtout excédés par ce fantôme que bizarrement beaucoup de gens arrivent à croiser, peu importe leur profession ou leur croyance. Les premiers témoins disent apercevoir une forme blanche dans les environs de Black Lion Lane tard le soir. Ils pensent que ce doit être l'esprit d'un ancien villageois qui s'est donné la mort l'année passée en se tranchant la gorge et qui est enterré dans le cimetière de l'église. Et apparemment, c'est pas un fantôme sympathique. Il arrête carrément les passants et parfois va jusque les attaquer en pleine rue, donc vraiment tout le monde est terrorisé à l'idée de le croiser en rentrant le soir. Un soir, justement, un conducteur de bus de l'époque, c'est-à-dire un conducteur de charrette tiré par des chevaux et transportant 16 personnes, aperçoit sur la route une forme blanche. Tout de suite, il panique, il sait ce que c'est. C'est le fantôme. Et terrorisé, il arrête le véhicule. Il descend et il part tout seul en courant, dans le sens inverse, laissant tous les passagers et les chevaux en plan sur la route. Un autre soir, nouvel incident, un homme nommé Thomas Groom explique qu'il était en train de marcher dans le cimetière tranquille le soir. Thomas, tu cherches la merde, faut se le dire. Il dit qu'il avait les deux mains dans ses poches, et soudain, quelqu'un caché derrière une pierre tombale l'a attrapé par le cou, puis agité dans tous les sens. Mais Thomas ne voyait absolument personne dans le cimetière. Donc, Thomas, grand mal alpha qu'il est, a sorti ses poings et a donné un coup à son assaillant invisible. Et il dit que c'était comme s'il avait donné un coup de poing dans un manteau très épais. Mais que c'était pas du tout solide, il a rien touché du tout. Lui-même, il arrive pas bien à expliquer ce qui s'est vraiment passé ce soir-là, mais comme tout le monde, il le met sur le dos du fantôme de Hammersmith. Ensuite, c'est au tour d'une femme enceinte qui marchait près d'un cimetière d'église, donc ça s'appelle un aitre, A-I-T-R-E, la petite zone de pierre tombale dans le jardin d'une église. Ça va vous servir à l'avenir, j'en suis sûre. Donc elle marche, il est 10h du soir, il fait bien nuit, bien sombre, bien froid. Hein. Et là, elle voit un spectre se matérialiser au-dessus d'une des tombes et qui se met à voler en sa direction. Elle se met à courir, elle fait de son mieux, hein, parce que bah, elle est enceinte, donc elle ne voit pas très vite. Et du coup, le fantôme la rattrape facilement. Il la serre dans ses bras tellement fort qu'elle s'évanouit. Oui, c'était pas un câlin. Il la serre jusqu'à ce qu'elle tombe par terre, quoi. Elle est retrouvée quelques heures plus tard par des voisins qui passaient par là. Décidément, tout le monde aime se promener dehors, près des cimetières, tard le soir. Bref, il la réveille et il la ramène chez elle. La légende dit qu'elle est partie dormir, enfin, elle est partie se coucher et elle ne s'est plus jamais réveillée. Apparemment, il serait arrivé la même chose à une femme âgée et toutes les deux seraient mortes des suites du choc qu'elles auraient subi. On est sur un esprit frappeur. Et là, par contre, ils commencent tous à se calmer, les villageois, et ils se disent « Bon, on va rester chez nous le soir maintenant, par peur de croiser le fameux esprit. » Ils sortaient que si c'était vraiment nécessaire, qu'ils n'avaient pas le choix. Donc, par contre, ils faisaient tout de même attention à éviter tous les endroits où le fantôme avait été vu. Certains villageois étaient quand même assez sceptiques de toutes ces apparitions et attaques. Ils comprenaient pas comment c'était possible de se faire courser et tabasser par un fantôme. Et ils ont soulevé l'hypothèse que ce fantôme était peut-être un humain qui se cachait sous un drap blanc. Donc on a deux camps, ceux qui sont terrorisés et ceux qui commencent à en avoir ras le cul de vivre tous les jours dans la peur de le rencontrer en rentrant du taf. Un certain Thomas Millwood, un maçon de Hammersmith, lui, il en a ras-le-bol plusieurs fois, justement en rentrant du travail le soir. On le prend carrément pour le fantôme, parce que il se trouve que son uniforme de travail, il est tout blanc de la tête aux pieds. Et donc il raconte qu'un soir, une charrette qui passait à côté de lui, il a entendu crier une femme « Voilà le fantôme !» Donc Thomas, ça l'a saoulé, ça l'a mis en rogne. Il a dit « Je suis pas plus le fantôme que votre conducteur. » Et il demande d'ailleurs à celui qui conduit, au conducteur, au fameux conducteur, s'il aimerait se prendre un pain dans la gueule pour vérifier qu'il était bien réel. Les gens ont commencé à croire que peut-être Thomas Millwood, c'était le fantôme du village, et sa femme, en entendant ça, paniquée, elle lui a demandé de mettre un manteau par-dessus son uniforme quand il était en dehors du travail. Et Thomas, saoulé, il a répondu « Non, je garderai mon uniforme blanc, que ça plaise ou non, qu'il fallait pas être débile non plus pour faire la différence entre un maçon et un fantôme. » Donc, le 3 janvier au soir, un certain Francis Smith, un brave gars, décide que c'en est assez. Il va résoudre ce problème de fantôme, il y en a marre. Il va s'en occuper lui-même. Il est douanier, en patrouille dans le coin, donc il est armé. Et ce soir-là, notre maçon Thomas, lui de son côté, il se met en tête de rendre visite à sa mère et à sa sœur qui habitent vers la fameuse Black Lion Lane. Je crois que c'était la rue qu'on a parlé au début, qui était très hantée, justement. Donc Francis prend sa patrouille au sérieux ce soir-là et il croise un monsieur William Girdler, un garde de nuit qui lui aussi fait sa ronde. Il discute un peu et Francis lui dit « Hey William, là tu sais, je suis en train de chercher le fantôme, je vais lui foutre sa raclée et on va en finir une fois pour toutes grâce à moi ». Et William il entend ça, il est trop chaud, il lui dit « Mais trop bien, mais tu sais quoi, je vais venir t'aider, attends, je finis ma tournée et puis bah, j'arrive, hein, je te rejoins ». On y va ensemble. Donc quand ils quittent le travail, comme prévu, Francis et William se mettent en chemin à la recherche du fantôme. Ils précisent que c'était une nuit très, très sombre, qu'il était quasiment impossible de voir devant soi. Du coup, ils se sont donné un code pour qu'ils puissent se reconnaître entre eux si jamais il y avait un moment où ils se séparaient de quelques mètres et qu'ils n'arrivaient pas à bien se distinguer. La phrase c'était « Mon ami, avance mon ami ». Et l'autre devait répondre « Avance mon ami ». Donc pendant qu'ils sont en train de vadrouiller tous les deux dans le noir, Thomas, notre cher maçon, part de chez sa mère et il va pour rentrer chez lui. Est-ce que vous la voyez venir? Il devait être sûrement habillé tout en blanc. Il n'est même pas encore vraiment parti de chez sa sœur Anne. Donc il fait quelques mètres et il entend un truc du style « Oye, qui êtes-vous, bordel? Et qu'est-ce que vous faites? Je vais vous tirer dessus !» Et là, boum, le coup de feu est parti. Anne, elle court à l'extérieur et elle trouve son frère sans vie, par terre. Attirée par les bruits des coups de feu, des voisins arrivent sur la scène et ils trouvent un Francis très agité, choqué de voir qu'il a tiré sur quelqu'un et non pas sur un fantôme. Donc là, un policier va arriver sur les lieux et emmener Francis avec lui et le mettre en prison direct en attendant son jugement. Et William, le garde de nuit, il va transporter le corps au pub le plus proche, où il va y avoir un chirurgien qui va être appelé pour venir constater le décès, et celui-ci ajoutera que le tir a atteint Thomas en plein dans la mâchoire, ce qui a ensuite touché la moelle épinière, donc il n'avait aucune chance. Et il valide donc la théorie du meurtre. Le 13 janvier débute le procès, et c'est un procès qui restera historique en Angleterre, de par sa nature assez improbable. Et surtout, il soulève la question de « est-ce que une croyance non fondée peut justifier un acte drastique ?» Parce qu'en effet, Francis, il dit clair et net qu'il a bien tiré sur Thomas, mais que c'était par erreur, il pensait vraiment avoir affaire à un fantôme, et c'est pour cela qu'il plaide non coupable. Bien qu'il regrette absolument ce qui est arrivé, hein, il est plein de honte, il plaide non coupable, mais il se sent très coupable. Donc tellement qu'il arrive même plus à tenir debout tout seul, il est dévasté, et il y a tout le village qui se sent mal un peu pour lui, parce que il voit que ça le ronge, quoi. Et qu'il pensait vraiment pas tuer quelqu'un de vivant à la base. Et puis c'était même tout le contraire, il voulait sauver tout le village. Il faisait ça, c'était un... Voilà, il faisait son héros, quoi. Pour sa défense, il dit qu'il a interpellé au moins deux fois le fantôme avant de tirer. Mais voyant qu'il n'avait aucune réaction de sa part, ça l'a déboussolé et il a tiré. Le juge, Lord MacDonald, est décidément pas de son côté et il dit ne trouver aucun élément qui prouverait que c'est pas un meurtre pur et dur. Le juge, il dit qu'en aucun cas il avait le droit de partir à la chasse d'un soi-disant fantôme armé. Parce que si jamais ce n'était pas un fantôme, il y avait quand même aussi des doutes dans le village, hein, que c'était peut-être un humain. Donc il avait aucun droit, même si c'était un cambrioleur ou quoi, au final il avait aucun droit de partir à sa chasse armée. Donc c'est logique, hein. Mais bon, apparemment, Francis, il dit que dans ce village-là, il y avait des coups de feu toutes les 15 minutes, hein, sans raison, donc c'était quand même assez commun de tirer sur des trucs, apparemment. Donc voilà, puis en plus, il voulait défendre son village, donc c'était légitime. Bref, le juge, il en a rien à faire. Pour lui, Francis, il est coupable de meurtre, un point c'est tout. Mais heureusement pour Francis, c'est pas lui qui va décider de son sort, c'est pas le juge, c'est le jury. Et après avoir délibéré dans leur coin pendant une heure, le jury annonce son verdict, il déclare Francis coupable. Le juge était contre lui, on pensait peut-être que le jury allait le sauver, et au final, coupable tout pareil. Voilà. Petite nuance par contre, ils le reconnaissent coupable d'homicide et non de meurtre, alors que c'était pas sur la liste de base. Donc le juge, il les reprend et il leur dit que c'était pas une option à choisir l'homicide. Que la question c'était, est-ce que Francis, il est coupable de meurtre ou pas? Après, homicide et meurtre, c'est un peu la même chose. Enfin, c'était pas homicide involontaire, hein. Ils ont dit homicide. Donc, c'est à peu près la même chose.
Homicide, c'est quand tu tues un homme. Donc.
Oui, c'est ça. Donc meurtre ou homicide, c'est pareil.
Ouais.
Homicide involontaire, j'aurais compris, mais là, ouais. Non, c'était homicide. En tout cas, ça montre qu'il y avait une petite rébellion du jury pour pas donner la même sentence que le juge. Enfin voilà, bref, en tout cas, c'était pareil. Les jurys, au final, ils n'étaient pas si convaincus que ça pour le meurtre. Donc le juge, il va leur rappeler que même si la victime était un mec qui s'amusait à se déguiser en fantôme, c'était toujours pas une bonne raison pour que Francis le tue.
Surtout qu'il se déguisait pas en fantôme. Enfin, il était juste habillé en blanc.
ouais, non mais il dit, même si aujourd'hui on avait devant nous quelqu'un qui avait tué un autre parce qu'il s'amusait à faire le guignol en fantôme et que tout le village était déjà affolé à cause de ça, c'était pas une raison de le tuer. Et il serait jugé pour meurtre tout pareil. Mm. Le juge, il en rajoute une couche, il donne un autre exemple au jury, il dit que si un policier qui est en patrouille et qu'il tombe sur un mec qui est recherché pour avoir fait des choses horribles, des meurtres, etc., et qui lui tire dessus et le tue, bah c'est aussi un meurtre et qui sera jugé tout pareil. Donc en fait, le policier, il a pas à faire justice lui-même. Donc voilà, il rappelle au jury que là, il est mort, le Thomas. Donc voilà, arrêtez de faire genre qu'il n'est pas coupable. En plus de ça, le jury, il commence à se dire qu'au final, c'est vrai que même s'il cherchait à défendre la ville du fantôme, il a tiré une balle dessus. En quoi ça allait tuer un fantôme?
Bah clairement.
Une balle, déjà de base. Ça fait aucun sens. Non seulement ça, mais aussi des témoins comme la sœur Anne contredisent Francis sur le fait qu'il aurait prévenu qu'il allait tirer et laisser du temps à Thomas de répondre. Elle dit qu'il n'aurait même pas fait de pause et il aurait tiré immédiatement. Donc le jury va délibérer à nouveau avec ces nouvelles nuances en tête et ils vont reconnaître, cette fois de tout cœur, Francis coupable de meurtre. Francis est condamné à la pendaison. Son exécution est prévue pour le lundi d'après.
Ah, ça va vite, hein.
Ah oui, c'est rapide, là. En attendant, au vu de toute l'attention et tout le bruit qu'a fait l'affaire dans le village et dans ses alentours, le juge décide d'en parler au roi. À l'époque, le roi d'Angleterre, c'était George III. George III va demander à ce que l'exécution soit repoussée et au final, il va gracier Francis et transformer sa peine en un an de dur labeur. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une affaire qui va faire débat dans la législation pendant plus d'un siècle en Angleterre pour déterminer si légalement les croyances elles peuvent être admises comme un mobile légitime ou non. Pour vous donner un exemple vite fait, un jour en 1983, un homme du nom de Gladstone aperçoit quelqu'un tirer et traîner violemment un autre homme au sol et la victime crie « à l'aide, à l'aide !» Gladstone, pensant qu'il est témoin d'une attaque, il intervient et il blesse celui qui croyait être l'assaillant. Sauf que, en fait, c'était quelqu'un qui venait d'attraper un voleur.
Ah, bah ouais.
Ouais, le juge a décidé, dans la lignée de l'affaire du fantôme, que déduire une situation sans la connaître, c'était pas une excuse, et que, à la fin des comptes, tu commets un crime en blessant la personne, sans connaître la réelle situation. Bon, là, on va loin, hein, mais c'est juste pour montrer que ça... Enfin, ce sujet-là, ça faisait débat longtemps chez les Britanniques. Ça a débuté en 1804 et quand même, 1983, c'était quand même assez récent.
Mais c'est vrai que c'est compliqué, en fait. Tu dois forcément prendre une décision quant à ça devant toi qui se passe. Tu déduis quelque chose, l'information arrive à ton cerveau et tu y vas, quoi.
Ouais, puis c'est ce que je m'étais dit aussi, c'est que le bon sens devrait prendre le dessus, en fait, pour le jugement. Quand tu vois quelqu'un qui se fait attaquer dans la rue, tu connais pas forcément la situation, mais tu dois quand même normalement faire quelque chose, parce que sinon on tombe dans la non-assistance à personne en danger. Bref, donc tout ça c'est super, c'est bien beau, mais en attendant, qui est le fantôme ? À ce stade, tout le monde est convaincu que c'est bien quelqu'un qui les fait chier depuis des semaines, et c'est pas un fantôme. Il pense peut-être à un Graham, c'est un cordonnier qui s'était mis en tête de faire peur à ses employés en se déguisant. Donc il est arrêté car des gens l'auraient repéré dehors, tard la nuit, déguisé en fantôme. Pour sa défense, il aurait seulement fait ça pour se venger de certains de ses apprentis qui avaient fait peur à ses enfants en leur racontant des histoires de fantômes, justement. Le problème, c'est qu'il a pas seulement fait peur à ses apprentis, il a fait peur à plusieurs autres personnes qui l'ont croisé dans les rues déguisées. Et d'ailleurs, notre garde de nuit, William, l'avait lui aussi aperçu. Donc il est reconnu coupable de nuisance à l'ordre public. Et l'ironie, c'est Graham, ce cordonnier, qui va chanter aux funérailles de Thomas. Donc c'est un peu culotté parce que c'est quand même lui qui a participé, entre guillemets, à sa mort. Participait à effrayer tout le village en se déguisant. Alors que Thomas, lui, il était juste habillé en blanc, hein, il faisait rien de mal, il s'est pris la balle à sa place, j'ai envie de dire. Et soudainement, après l'arrestation du cordonnier, on ne verra plus le fantôme se promener dans le village. Ce qui est bizarre parce qu'apparemment le cordonnier aurait été responsable de s'être déguisé seulement une fois, la nuit du 29 décembre, et du coup c'est impossible que ce soit lui pour toutes les autres apparitions qui ont été rapportées. Donc ça résout pas le problème au final, qui c'est qui a agressé la femme enceinte par exemple. Donc on en déduit que peut-être plusieurs personnes auraient pu être prises pour le fantôme, qu'il l'ait fait exprès ou non. Il suffisait juste d'être habillé en blanc pour passer pour le fantôme au final. Certains le faisaient peut-être pour s'amuser, faire peur à leurs voisins, leurs connaissances, en surfant sur la légende. Mais d'autres, comme le maçon, ils avaient juste pas eu de chance et ils étaient accusés à tort. On pense aussi que peut-être des groupes de personnes entiers se faisaient passer pour le fantôme, par-ci par-là, pour s'amuser et pour garder la légende en vie. Bien que, après le meurtre de Thomas et l'arrestation du cordonnier, les apparitions aient stoppé. C'est un petit peu logique parce que y en a un, il s'est pris une balle, donc t'as pas trop envie après de continuer à te déguiser en fantôme dans toute la ville. Enfin, je pense que le mot, il a tourné. Hein. Au final, tout le monde s'est calmé, il n'y a pas trop d'apparitions, etc. Sauf que, 20 ans plus tard, le fantôme ressurgit. Cette fois-ci, il a évolué, comme un Pokémon. Le fantôme, il aurait maintenant des crochets pour mains, et il cracherait du feu. Mais rapidement, c'est un jeune fermier qui est arrêté, et l'histoire est de nouveau bouclée. Jusque en 1932, où ça recommence, un fantôme est aperçu en train de grimper au mur, comme Spider-Man, à l'aide de grandes griffes. Donc il y a des griffes, il monte sur les murs. Et bien sûr, pour clôturer cette histoire, il y a quand même un petit pourcentage de gens qui croient toujours que c'est un vrai fantôme qui rôdait dans le village, et ils racontent même que tous les 50 ans, vous pouvez l'apercevoir à minuit dans le cimetière de l'église. Donc la morale de l'histoire, c'est écouter votre femme quand elle vous dit de mettre un manteau pour pas qu'on vous prenne pour un fantôme, ben vous l'écoutez. Parce que vous risqueriez de mourir et de finir dans un podcast 218 ans plus tard.
Eh bien, cet épisode arrive à son terme. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci Vanille d'avoir accepté mon invitation. C'était trop cool de t'avoir écouté ce soir.
C'était trop bien.
Ouais, ça t'a plu?
Ouais, c'était trop cool.
Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet si on veut t'écouter ou discuter avec toi?
Déjà, on peut écouter mon podcast C'est Creepy, qui est dispo sur toutes les applications de podcast. Sur Twitch, de temps en temps, C'est Creepy Pod. Sur Twitter, Instagram, etc. En général, vous Vous trouverez les liens assez facilement, c'est CreepyPod, mon pseudo, voilà.
Je vais mettre tous les liens dans la description. Tous les liens également pour me retrouver, ils sont aussi, notamment le Discord des Antipodes, pour discuter ensemble entre chaque épisode. Et également ma chaîne Twitch, on y passe toujours des chouettes moments, donc n'hésitez pas à venir nous voir.
Grave.
Pour ceux qui souhaitent soutenir le podcast, vous pouvez faire comme Bouddha31, qui a mis ce commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast traite de true crime, de légendes urbaines et surtout d'affaires étranges irrésolues. Vous faites participer au débat sur Twitch lors du débriefing de l'émission quelques jours plus tôt. Et rien que pour ça, j'essaierai de participer à ma façon à l'émission. Venez nombreux, toutes les suppositions sont les bienvenues. Et merci beaucoup pour ce commentaire, ça aide énormément. Et d'ailleurs, en parlant de commentaires, je suis toujours preneur de retour. Donc si vous avez des suggestions d'amélioration ou même des sujets à traiter, vous avez mon mail dans la description. Je lis tous les mails, donc n'hésitez pas. Maintenant, on va faire place à l'after show pour ceux qui nous suivent en direct. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, je vous dis à dans un mois pour le prochain épisode du Rendez-vous de l'étrange. Prenez soin de vous, à bientôt.
Bye!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.